Lieu sacré pour les uns, lieu d'évasion pour d'autres, ou simplement ameublement pratico-pratique pour certains, la bibliothèque peut refléter ce que l'on est, ce qui nous constitue, ce que l'on rêve, ce à dont on aspire. Littérature, poésie, récits, essais, scientifiques, érotiques, guide du parfait dénicheur du clou à tête plate, notre bibliothèque dit quelque chose de nous. Alors invitons-nous dans quelques-unes d'entre elles où nous reçoivent des lecteurs qui partagent les livres décisifs, marquants, qui les ont construits, guidés ou ont été une porte d'entrée.
Transmettre le plaisir de la littérature, ça peut se faire que si on le vit vraiment.
Installons-nous chez une amoureuse de livres, Emmanuelle.
Alors moi, mon énorme coup de cœur littéraire, c'est le roman de Nancy Houston, Ligne de faille, qu'elle a écrit en 2006. Voilà, donc je l'ai lu à sa sortie et pour moi, ça a été une grande révélation littéraire. Hein, ça, je peux dire qu'il y a un avant et un après. J'ai trouvé que ce livre était d'une perfection à plein de niveaux, à mon sens, et notamment dans sa forme. Parce que il s'agit en fait d'une histoire racontée à l'envers. En fait, on remonte le temps. On commence par les années 2000 et on va remonter jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, donc dans les années 40. Donc, nous avons quatre narrateurs, hein, quatre enfants de 6 ans. Donc voilà, donc quatre parties. Donc le premier c'est Saul, un petit garçon donc de 6 ans qui est absolument insupportable, horrible. D'ailleurs, conseille à tout le monde de pas s'arrêter à ce personnage parce qu'on a presque envie d'arrêter le livre tellement il est horrible. C'est un enfant roi, précoce, roi et qui est fasciné par la mort des soldats pendant la guerre en Irak. Donc, et il est pétri de jeux vidéo, mais dans le sens négatif du terme. Et voilà, donc. Bon, c'est un enfant qui est très dur. Et après, donc, voilà, le deuxième narrateur, ça va être son papa, dans les années 80, Randall, qui, lui, ne veut vivre que dans l'instant présent et refuse le passé. La troisième narratrice, c'est Sandy, la grand-mère du premier petit garçon, qui, elle, veut tout connaître de son histoire. Et la quatrième, c'est l'arrière-grand-mère. J'ai oublié son prénom, et qui est un personnage incroyable. Et alors, ce qui est intéressant dans ce livre, c'est que on va justement tout comprendre de la pathologie de ce petit garçon de 6 ans, finalement. On va remonter le temps, et à chaque fois, ça va nous donner des clés pour comprendre la psychologie de ce personnage. Enfin, chaque personnage va nous aider à comprendre celui d'avant. Et jusqu'à l'apothéose où on va réaliser que l'énorme secret de famille, c'est ça qui entraîne toutes ces conséquences, toutes ces pathologies. C'est très fort au niveau de la narration. Donc, comme je disais, c'est très bien écrit. Moi, j'adore Nancy Houston. J'aime tous ses livres. C'est à la fois donc très agaçant, irritant, triste, émouvant. Enfin, je trouve que là, il y a vraiment il y a vraiment tout pour que ça me plaise à moi, en tout cas. Le titre est très bien trouvé, Ligne de faille, hein, parce que ça évoque une brisure, en fait, en géologie, je crois. Et c'est une brisure psychologique qui fait que les personnages vont vivre ce qu'ils ont vécu. On a accès, par ce livre, à plein de choses autour de la guerre, différentes guerres, en fait. Voilà, c'est vraiment, pour moi, un roman qui m'a beaucoup marqué et que j'ai énormément conseillé, énormément offert. Et voilà, je me suis dit en le refermant, alors déjà j'ai beaucoup pleuré quand je l'ai refermé parce que j'avais beaucoup d'émotions. Et puis je me suis dit que j'aurais envie de le relire à l'envers, c'est-à-dire en commençant par la quatrième narratrice et finalement faire une lecture chronologique. Et puis après, j'ai dit non, je vais pas faire ça parce qu'elle l'a construit, Nancy Houston l'a construit de cette manière-là et je veux pas, voilà, gâcher ça. Par contre, je le relirai un jour dans ce sens-là, avec grand plaisir, je pense. Thank you. Alors, je vais parler d'un autre livre qui m'a énormément marqué il y a quelques années. C'est une bande dessinée, donc dont la narratrice est Julie Daché, nantaise, et Mademoiselle Caroline, voilà, et l'illustratrice. Et donc cette bande dessinée, La différence invisible, traite en fait de l'autisme Asperger. Voilà, c'est le thème principal. Et en même temps, si elle m'a plu, c'est ce que je recherche un peu dans la littérature, enfin, ou dans les bandes dessinées, enfin, tous les livres, c'est le fait qu'elle ait une portée universelle et qu'elle, voilà, que le sujet ne s'arrête pas au sujet qui est décrit, mais parle de beaucoup d'autres choses, et c'est vraiment le cas dans cette bande dessinée. Donc, alors Julie Daché, donc voilà, la scénariste, donc écrit un peu son histoire à elle, hein, parce qu'elle est elle-même autiste Asperger. Donc, elle se sert d'une personnage qui s'appelle Marguerite, qui est un double d'elle-même. Donc, Marguerite est une jeune femme de 27 ans qui, voilà, est mal dans sa peau, elle est mal avec les autres, elle est mal dans la relation, mal au travail, mal dans son couple, mal dans sa famille. Parce que en fait, elle supporte peu de choses. En fait, elle n'est pas en adéquation avec les autres. Parce que elle ne supporte pas le bruit. Tous les bruits, en fait, sont complètement amplifiés pour elle. D'ailleurs, c'est bien montré dans la bande dessinée. Ils sont faits en rouge un peu avec des onomatopées assez voyantes. Et elle ne supporte pas les conversations. Enfin, c'est pas qu'elle supporte pas les conversations, mais elle n'arrive pas à s'insérer dans les conversations de ses collègues. Ça lui parle pas. Elle, tout ce qu'elle a envie, c'est d'être seule. L'idéal pour elle, ce serait de travailler chez elle, finalement de vivre seule, de dormir seule, mais elle essaie à s'adapter à la société, et c'est très très mal vu, hein. On lui dit qu'elle est bizarre, qu'elle est weird. Du coup, comme ça va vraiment mal, bah, elle décide de faire des recherches, quoi, parce que bon, elle a vu plein de médecins, plein de psys, et ça donne rien du tout. Et au final, elle va donc par internet, par certaines rencontres sur internet, voir s'intéresser à l'autisme Asperger. Ça, vraiment, ça lui parle complètement. Elle va rencontrer, parce que la plupart des médecins lui rient un petit peu au nez, hein, parce qu'il regarde dans les yeux, parce que voilà, l'image de l'autisme, ça peut être un peu différent. Et du coup, elle va être amenée, avec une bonne rencontre, à aller dans un centre pour évaluer l'autisme. Et effectivement, on va lui annoncer qu'elle est autiste Asperger. Et là, ça va être la grande joie pour elle, hein, étonnamment. Alors, c'est rendu dans la BD de façon assez humoristique, parce qu'elle saute au plafond, etc. Elle est hyper heureuse, alors que ça pourrait être quelque chose qui peut être très difficile à vivre. Et elle le vit très bien, parce qu'enfin, on reconnaît sa différence. Enfin, elle comprend pourquoi elle est comme ça. Et là, voilà, il va y avoir un grand changement dans sa vie. Et elle va du coup tout adapter à ça. Donc, quitter son travail parce que voilà, l'institution ne s'adapte pas. Changer de médecin, changer de tout. En fait, changer d'amis, changer de quitter son petit copain. Et elle va enfin être heureuse. Voilà, parce qu'elle a ce diagnostic. Alors l'autisme Asperger, c'est pas ça fait partie du spectre de l'autisme. C'est un autisme sans déficience intellectuelle, sans retard de langage, etc. Donc ça se voit pas en fait. C'est d'où le titre, La différence invisible. Voilà, il va y avoir un changement total. Elle va créer un blog et elle va se mettre à militer pour la reconnaissance de cette différence et l'acceptation, etc. Et puis, elle va être amenée à faire cette bande dessinée. Le sujet est passionnant et en plus, au niveau de la forme, ça se lit avec un énorme plaisir. J'ai lu plusieurs fois, je l'ai énormément offert aussi. Les personnes à qui je l'ai offerte ont beaucoup aimé. Enfin, ça marque. Et c'est un petit peu comme pour Ligne de faille. Il y a un avant et un après. Ça m'a vraiment, moi, changé mon regard sur la différence invisible comme ça, sur toutes ces différences. Et je me suis beaucoup reconnue, moi, avec toutes mes petites différences, hein, je ne suis pas du tout dans ce spectre-là, mais voilà, on a tous des choses qu'on dissimule aux autres parce que c'est voilà, c'est différent, on n'est pas en adéquation, etc. Et là, cette histoire m'a vraiment aider moi, j'ai envie juste de dire un petit mantra là. À un moment donné, qu'elle doit afficher ça chez elle. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, il passera sa vie à croire qu'il est stupide. Voilà. Et j'ai trouvé ça fantastique parce que voilà, ça explique tout. Elle, voilà, elle pensait vraiment qu'elle était incapable, alors qu'elle est extrêmement capable. Mais voilà, il faut faire un pas de côté. Il faut comprendre sa différence, voilà. Donc voilà, superbe BD. Les dessins sont vraiment très, voilà, m'ont beaucoup plu. C'est plus au départ quand elle comprend pas ce qui lui arrive, c'est assez sombre. Et finalement, quand il y a la révélation pour elle, ça s'éclaire, c'est coloré, c'est beau. Et il y a beaucoup d'humour dans cette bande dessinée. Elle prend vraiment du recul, voilà. Donc pour moi, c'était une belle révélation.
عمغار يتسل ذقبر نوس ذي سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قارص الزين عمغار يتسل ذقبر نوس ذي سيالة يزيزين ميسيت حبير القوت وسندق قارص الزين سليف ذفير وموز الطاس سليتي جبالين أرش الزين ديت مغار فاسن صغار تقديمين سليف ذفير وموز الطاس سليتي جبالين علاش الزين ديت مواطنس صغار قديمين يا لا لا يا لا 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 علاش الزين ديت موار يا لا لا يا لا 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 اسن صغار في قديمين شن شن تيز بقى ثيني ما يلي غريبة
وكل الوحش العبا غابا
Je suis lectrice professionnelle, bibliothécaire. Alors, je parviens à garder cette intimité avec la littérature, mon précaré, on va dire, parce que ça a toujours été là, en fait, et que ça peut. Et c'est pour ça que je suis bibliothécaire. Donc, ça ne pourrait pas en être autrement, en fait. Et c'est cette passion que j'ai qui fait que j'arrive à faire mon métier. Voilà, c'est vraiment un métier que j'ai choisi parce qu'il me permettait d'exprimer cette passion intime. Alors effectivement, je suis amenée à lire plein de livres que j'aurais pas forcément choisi. Donc voilà, il y a toute cette partie-là, mais je garde toujours cette place pour les livres que j'ai envie de lire, que je choisis moi-même et que j'ai envie de transmettre. Ça, voilà, et et même si ça correspond pas à ce qu'on attend, etc. Dans le monde des bibliothèques, c'est très facile ça. Les gens attendent qu'on partage vraiment nos coups de cœur intimes et qu'on n'aille pas leur présenter ce qu'il faut lire, mais ce qu'on aime lire en fait. À lire, c'est ce, pour moi, c'est, je me plonge dans un monde en fait, dans un monde justement très intime, où je suis moi-même avec ce monde-là en fait. Je me plonge dans ce monde un petit peu comme, je sais pas, Alice au pays des merveilles. Hein. C'est l'image qui me vient comme ça. Je pénètre dans un monde assez fantastique en fait, et c'est toujours un voyage différent, c'est ça qui est, chaque livre est un vrai voyage, quand j'arrive à me mettre dedans, sensoriel, un voyage voilà géographique, un voyage dans une écriture, une rencontre avec un auteur, d'ailleurs j'aime beaucoup rencontrer les auteurs après, parce que je trouve que c'est intéressant d'avoir un petit peu leur point de vue après, voilà, donc c'est ça moi, c'est un voyage. Souvent, je réalise que je suis attirée par la littérature qui provoque beaucoup d'émotions et qui peut être un peu noire parfois. C'est en ça que dans mon métier, je fais attention aussi, parce que il y a beaucoup de lecteurs et lectrices qui veulent des choses plus légères. Mais voilà, je suis attirée par des lectures noires, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, c'est comme ça. Donc, par exemple, La Route de Cormac McCarthy, c'est un livre qui est pour le coup très très noir parce que il s'agit d'un un monde apocalyptique où un homme et son fils se retrouvent sur la route, on ne sait pas où, une fois que tout a été détruit. Et voilà, c'est ce chemin qu'ils vont faire dans l'adversité. Voilà. Donc très très dur comme littérature. En même temps, ce qu'il y a, ce que je peux retrouver dans d'autres livres, c'est que il y a à la fois ce contexte noir et il y a à la fois la relation intime entre les deux. Et c'est ça qui m'a intéressée dans ce livre. Voilà, donc contexte difficile, mais relation intime, relation forte entre des personnages. Ça me plaît beaucoup. Ce qui m'emmène aussi vers Esprit d'hiver de Laura Kasich, qui est pareil, une grande autrice américaine, une des plus grandes, Esprit d'hiver. Donc Esprit d'hiver, pour moi, c'est un peu la rencontre entre Stephen King et Virginia Woolf. Voilà, c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'on est vraiment dans la tête d'un personnage. Donc dans tout ce livre, il se passe finalement pas grand-chose en action. On est dans sa tête. Elle attend des gens le soir de Noël. Mais alors, ça va être un chaos incroyable. On va sentir venir quelque chose de terrible. Et voilà, il y a aussi la relation avec sa fille. Voilà, encore une relation filiale, hein. Ça revient, je réalise que les relations filiales sont importantes peut-être pour moi. Voilà, et avec une écriture remarquable. Donc Laura Kasich, pour moi, c'est vraiment quelqu'un d'important. Pour Emmanuel, avec mon amitié, certaines histoires sont de nécessité de la grande histoire. Kamel Daoud. Kamel Daoud, un grand choc littéraire pour moi. Hein. C'est donc un roman qui est paru il y a quelques années. Ce livre prend le contre-pied de L'étranger d'Albert Camus. Où là, en fait, alors j'ai lu à un moment, donc j'ai un peu de mal à en parler, mais il prend ce contre-pied et réhabilite, en fait, l'arabe, entre guillemets, qui a été tué. Et ça commence, moi je trouve, j'adore la première phrase. Aujourd'hui, Ma est encore vivante. Voilà, par rapport à la phrase de Camus, aujourd'hui, maman est morte. J'ai adoré ce livre. Chaque phrase, je l'ai trouvée extraordinaire. Il y a plein de réflexions sur la religion, etc. Ça va ramener aussi à David Diop. Pour Emmanuel, une lectrice amie de Frères d'âme, fraternellement, David Diop. Frères d'âme, qui est extraordinaire aussi, même s'il est très très noir. Ça se passe pendant la Première Guerre mondiale. C'est un artilleur sénégalais qui est le narrateur ou le personnage principal. Et en fait, c'est un personnage qui va sombrer dans la folie, d'une manière monstrueuse. Voilà. Mais comme j'ai dit, j'aime bien la littérature noire. C'est extraordinaire. Alors, je réalise que là, il y a deux prix Goncourt des lycéens. J'en profite pour remercier ce prix qui à chaque fois, pour moi, est le meilleur prix qui existe. Voilà, le prix Goncourt des lycéens. Je suis jamais déçue. Et d'ailleurs, en ce moment, je suis en train de lire Les Impatientes. Jaïli Amadou Amal, qui est le dernier prix Goncourt des lycéens, qui est magnifique, qui est très noir aussi. Voilà, j'ai l'impression que la littérature, c'est une grande partie de ma vie. Et j'ai envie de remercier tous les auteurs, tous les acteurs du livre. Voilà, c'est une belle famille. ملاق جمورا قسف في ذكرى كيني ذنيا ملالا داكوات وخامي ثماشاه وتلسلا ملاق جمورا قسف في ذكرى كيني ذنيا ملالا داكوات وخامي ثماشاه وتلسلا يا لا لا يا لا 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 ملالا داكوات وخام يا لا لا يا لا 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 ثماشاه وتلسلا قاسيني ما يلي غريب غاها وكل الوحش الغابة غابة بين وبغابة بين وبغابة وقد غول أذناكيني ما يلي غريب غاها لا 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 لا
Virée chez Pierre, le septième compagnon.
Pour lui démontrer qu'elle était bien accrochée, le tondu et Bistec vont chercher une chaise. Et autour du dossier, répètent leur opération d'amarrage, sans oublier le crochet de sécurité. Vous constatez, monsieur Soubéran, dit Corget. Elle ne pouvait pas se détacher. La seule chose à craindre, c'est que le piton de rocher vienne à céder. Ce qui ne s'est pas produit, puisque vous-même, vous avez accroché la seconde échelle à ce piton. Croyez-nous, ce sont les rôdeurs qui ont fait le coup. Ceux qui sont descendus en cachette dans la grotte et qui ont essayé de tuer Kafi. Donc là, tu vois, Salima, je viens de te lire un extrait de ce qui a façonné mon enfance, Les Six Compagnons, et en l'occurrence, le très bel ouvrage Les Six Compagnons au gouffre de Marzal, du très très bel auteur Paul-Jacques Bronson, aux éditions Hachette. Et quand j'ouvre ce livre aux pages jaunies, édité dans les années 60, 63, je retrouve l'odeur de mon enfance. Ces livres-là, je les ai. C'est pas les livres de mon enfance. J'ai essayé de les retrouver dans des librairies, des bouquineries d'occasion, pour retrouver les sensations que j'avais finalement quand j'étais enfant. Parce que ces bouquins de la Bibliothèque Verte, finalement, c'est ces émotions de recherche de liberté. Par procuration avec ces aventuriers qui partaient partout en France, parfois un peu plus loin, en chevauchant leur mobylette, et qui semblaient ne pas avoir de parents, qui semblaient être en totale autonomie alors qu'ils avaient peut-être 12, 13, 14 ans. Et ça me permettait, moi aussi, de m'évader avec eux. Et quand on est enfant, on se sent tout le temps emprisonné chez ses parents, et grâce à ces bouquins, ça me permettait de m'évader. J'y associais la musique avec, et donc c'est aussi des premières rencontres musicales. Je pense notamment par exemple aux Beatles, que j'écoutais en boucle en même temps avec des morceaux comme Strawberry Fields Forever, et c'était le kiff. Let me take you down.
I think it's not too bad. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, and nothing to get hung about. Strawberry Fields forever.
Pourquoi ça m'a évoqué, et pourquoi j'ai eu besoin de reconstituer cette collection de presque 45 livres, parce que aussi, ce qu'on peut retrouver avec ces six compagnons, d'ailleurs qui sont parfois sept, c'est pas tout à fait exact, c'est cette diversité de personnages avec des profils différents. On a le teigneux, on a le costaud, on a l'intelligent. Alors, on est clairement dans une construction des années 60, particulièrement misogyne, où il y a une seule femme avec cantonnée à son rôle d'intuition, un peu cruchasse, disons les choses, la pauvre Maddy. Mais pour autant, je crois que je peux concéder aujourd'hui que j'étais un peu amoureux de cette Maddy. Et donc, ouais, dans tous ces personnages, on en deux ressortent finalement, les deux héros. Et c'est pas le plus costaud, c'est pas le plus beau, mais c'est le plus intelligent. Et c'est des valeurs, je pense, dans lesquelles je me retrouve complètement aujourd'hui. C'est comme ça que je me suis façonné. C'est cette intelligence qui me caractérise. Oui, souvent, tu me le dis,
évidemment.
Salut. Est-ce que c'est pas grâce à ce fameux Tidou que je l'ai construite? Et puis, cet amour du chien, le chien d'enquête, Kafi. Kafi qui vient, je crois, d'un mot arabe qui veut dire la chance ou chanceux. À vérifier, j'ai pas lu ça depuis quelques années quand même, donc je l'ai plus forcément en tête. Kafi, qui est ce chien fidèle, loyal, un berger allemand, et je te le donne en mille, qu'est-ce que j'avais comme animal à ce moment-là? Un berger allemand. Feu, ma pauvre Diana, Lady Di, comme on l'appelait, enfin. Donc voilà, il y a tous ces personnages qui ont compté. Ce que l'on peut dire aussi, c'est, je parlais de liberté tout à l'heure, ouais, ce voyage dans une époque qui semblait une forme d'insouciance des années 60, début 70, voyage dans cette époque où à Lyon, puisque ça se passe à Lyon, les six compagnons de la Croix-Rousse, où sur les toits au canut, on est dans une autre époque où des tisserands faisaient leur travail avec des vers à soie. Ces voyages dans des villes que quand on est enfant on ne connaît pas et finalement on a envie d'aller voir. Les six compagnons dans la ville rose, naturellement, cette très belle enquête face à des contrebandiers dans Toulouse. Les six compagnons, là j'en parlais justement, au gouffre Marzal. Les six compagnons, le cigare volant avec le plateau des mille vaches. Donc quelque part, je pense même être allé en vacances dans certains endroits en allant chercher ce que j'avais lu et imaginé dans les livres. La première fois que je suis allé à Lyon, j'avais ça en tête. À Toulouse, j'avais ça en tête. Quand je vais dans des régions perdues du Massif central ou des Pyrénées, j'ai ça en tête. Donc on peut dire que ça a compté aussi comme ça.
Always know, sometimes think it's me, but you know I know when it's a dream. I think I know, I mean, yes, but it's all wrong. That is, I think I disagree. Let me take you down, 'cause I'm going to Strawberry Fields. Nothing is real, nothing to get hung about. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever. Strawberry feels forever.
Ça m'évoque encore. Alors, si on veut parler quand même de l'auteur, puisque Paul-Jacques Bonzon, je pense qu'il n'est pas assez connu. Alors, pourquoi? Peut-être qu'il avait une plume qui dérangeait. Hein. Dans l'extrait que j'ai pu vous lire, on constate clairement que le choix des mots, tout ça est assez tranché, avec cette idée de aussi assez manichéenne, qui sont les bons, qui sont les méchants. Parfois, on se rend compte que les méchants ne le sont pas tant que ça, ou le sont devenus à la faveur d'un événement dans leur vie, pas si simple à digérer. Mais donc Paul-Jacques Bonzon, cette plume acérée, comme on aime à le dire, n'a pas écrit l'ensemble des six compagnons, puisqu'il est mort avant. Théorie du complot, aurait-il été assassiné, je ne sais pas. Bon, il avait peut-être 85 ou 90 ans.
Aussi,
on peut imaginer
ouais,
qu'il était. Ouais. Pour autant, d'autres ont voulu prendre la suite. Et pour qui, pourquoi ? Ben, ça n'a pas la même saveur. Je ne saurais pas l'expliquer, puisque un peu à l'image d'un auteur de BD qui va essayer de reprendre les traits vus d'un dessin, d'un Astérix ou je sais pas moi, d'un Lucky Luke, bah ça c'est proche finalement, mais ça n'a pas la même saveur. Peut-être aussi que c'est lié au format du livre, puisque bah, les derniers ils sont pas dans ces vieilles éditions avec ce papier jauni, avec cette odeur. Je sais pas si ça participe du fait que je les apprécie pas de la même manière. Je parlais des sujets un petit peu clivants. Il y a beaucoup de contrebandiers dans Les Six Compagnons. Est-ce que déjà, par anticipation, Paul-Jacques Bonzon voulait nous parler des risques de la contrefaçon, du risque de l'économie souterraine, des conséquences que ça pouvait avoir sur le budget d'un État, avec derrière c'est le poids de l'État, sa capacité à organiser, la confiance qu'on peut avoir en lui. Je ne sais pas. J'imagine que tout ça n'a pas été pensé par hasard, dans tous les cas. Paul-Jacques Bonzon était trop intelligent pour dire ça au hasard. Et je ferai d'ailleurs un petit jeu de mots pour jeter une bouteille à la mer au hasard, puisque ceux qui connaissent bien Les Six Compagnons se rappelleront qu'il y a naturellement Les Six Compagnons et la bouteille à la mer. Pour conclure et revenir sur ces personnages, Gnafron, La Guille, en référence au quartier La Guillotière de Lyon, Tidou, le Tondu, parce qu'une maladie avait, quand il était très jeune, avait fait perdre ses cheveux, lui avait fait perdre ses cheveux. Alors, il se trouve que je suis chaud aujourd'hui, est-ce que c'est pour m'identifier au Tondu? Tous ces personnages, j'en oublie quelques-uns, Bistec, parce que son père était boucher. On a aussi cette idée du clan, de la force d'un groupe, de la fraternité, de la solidarité. Je pense qu'en conclusion, on pourrait tout simplement dire que si ces enquêtes, ils ont pu systématiquement, parce qu'il n'y a pas une enquête qui est restée non résolue, s'ils ont pu avoir ce taux de succès de 100% qui, je pense, donnerait envie à bien des enquêteurs, c'est parce que justement ce clan, il fonctionne, parce que comme le veut l'expression consacrée, tout seul, on va peut-être plus vite, mais ensemble, on va plus loin.